Donc nous lisons ensemble le psaume 140, un psaume qu'on appelle imprécatoire. Nous allons parler de ça tout de suite. Au chef des chantres, psaume de David, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. C'est le roi du peuple de Dieu qui parle. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents, parce qu'ils sont violents, qui méditent de me faire tomber, probablement me tuer. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'ils ne s'en glorifient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu. Dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Donc il prie pour, pour la mort de ses persécuteurs. L'âme dans la langue est fausse, ne s'affermit pas sur la terre, qui ne va pas continuer à vivre. Et l'âme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Nous avons commencé il y a 2 semaines, avant de faire une pause pour la Pâque, une série de messages sur les psaumes imprécatoires. Alors, vous allez vous rappeler que nous avons dit, et ceci est dans le plan que vous avez ici, avec le petit dessin au milieu, qu'un psaume imprécatoire, c'est un psaume où le croyant de l'Ancien Testament appelle à Dieu pour faire du mal à des méchants. Voilà, tout simplement, on va le dire comme ça. C'est en fait un des plus grands problèmes qui se trouve dans notre Bible pour certains. Ils ne peuvent pas comprendre, et peut-être pour nous aussi, ça a été difficile en essayant de prier parfois les psaumes, de prier des choses comme ceci. Imaginez-vous en train de prier ceci cette semaine au sujet de quelqu'un qui persécute votre église. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Est-ce que je suis... Oui. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table, Seigneur, soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Seigneur, rends-les aveugles ou tue-les afin qu'ils ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, Seigneur, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Que leur maison soit complètement détruite. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Et quand nous lisons des prières comme cela, nous avons vu et nous avons dit la semaine passée que notre cœur de chrétien, ce cœur touché par la grâce du Dieu qui pardonne l'ennemi, notre cœur se retire un peu, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas toujours quoi faire avec ces passages-là. Il y a des fausses manières, nous avons vu, et je suis en train de réviser rapidement, des fausses manières d'écarter ces passages, un peu de les couper, on les enlever de notre Bible. Parfois, il y a des gens qui disent que c'est une moralité inférieure qui appartient à l'Ancien Testament. Mais nous avons une moralité supérieure. Et nous avons vu que ce n'est pas possible. Il y a un seul Dieu et une seule moralité. Et où il y a des prières imprécatoires dans le Nouveau Testament. Et nous allons les voir aussi. Et il y a ceux qui disent que c'est des explosions un peu irréfléchies de la part de quelqu'un qui, sous pression d'une telle violence, s'éclate. Il n'aurait pas dû dire ça, mais il a dit. La Bible n'est pas en train de cautionner ça, mais juste de relater sa prière. Le problème, c'est que le livre des psaumes est un recueil de cantiques, écrit soigneusement et avec beaucoup de réflexion, afin que ce soit chanté par le peuple de Dieu. Ce n'est pas une chose irréfléchie, couchée comme ça, dans la colère. C'était écrit d'une manière complètement différente, sous l'inspiration de Dieu. Donc, on ne peut pas les écarter, on doit les comprendre, et savoir comment, en tant que chrétien, dans le Nouveau Testament, nous devons prier ces prières et les adapter à nous-mêmes. Bien, maintenant, pour comprendre les prières imprécatoires dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses que nous devons saisir. Et donc là, je vais passer 7 ou 8 minutes à expliquer quelque chose, peut-être un peu compliqué, on va essayer de rendre ça aussi facile que possible. Regardez sur votre feuille et vous trouverez un dessin. Et dans ce dessin, je décris que si vous ne l'avez pas vu, donc vous avez à gauche Éden. Bon, pas Éden, Éden me regarde, mais la raison où on commence là, c'est ceci. Le plan de Dieu, c'est d'établir son royaume. Alors dites-moi, un royaume demande quoi? Il faut quelques éléments pour qu'il y ait un royaume. Il faut d'abord quoi? Vous pouvez me dire. Il faut un roi. Et il faut aussi un peuple, et il faut ainsi un territoire. Bon, ça suffit, je crois. C'est bon, c'est très bien. Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans le territoire de Dieu, sous le règne de Dieu. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et au début, on a dans le jardin d'Éden un royaume en germe. Quel est le territoire de Dieu, l'endroit spécial qui appartient à Dieu? C'est Éden. C'est le jardin de Dieu. Qui est le peuple de Dieu à cette époque?
Adam et Ève.
Adam et Ève. Pas un grand peuple, mais attendez seulement. Et donc, sous le règne de Dieu, tout est parfait. Dieu bénit et Dieu gouverne les choses dans le jardin d'Éden. OK? Mais malheureusement, l'homme a péché. Il s'est détourné du plan de Dieu. Et donc, il a été banni d'Éden et de cette forme du royaume de Dieu. Mais Dieu va quand même avoir son peuple dans son endroit, sous son règne et sous sa bénédiction. Donc, Dieu commence son plan de salut. Son plan pour rétablir son royaume parmi nous. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été probablement ramené dans ce royaume. Mais avant d'envoyer le Seigneur Jésus, qui est le roi de ce royaume, il fallait tout un temps de préparation. J'ai sauté quelques phases de l'histoire, excusez-moi. La prochaine phase que moi j'ai mise, c'est l'alliance mosaïque. OK, pourquoi? Alors, c'est un moment spécial dans l'histoire. C'est un temps où Dieu forme un royaume, son royaume encore, sur la terre. Alors, quel est le territoire de Dieu à l'époque de l'Alliance Mosaïque? Quel est l'endroit spécial qui est la terre de Dieu?
Canaan.
Canaan. OK, ce n'est plus Éden, c'est Canaan. Qui est le peuple de Dieu?
Les Israélites.
Les Israélites. Et donc, ils sont sous le règne de Dieu qui est géré par le roi de l'Éternel, le roi David et les successeurs. OK? Maintenant, il faut que vous sachiez que à cette époque, pendant cette époque unique, et uniquement à cette époque, Dieu a voulu donner un aperçu, un échantillon, Oui, du royaume final. Et donc, il a fait intrusion dans ce moment d'histoire, dans le pays de Canaan, des choses qui vraiment n'appartiennent qu'au royaume final de Dieu, à l'éternité. Je vous donne quelques exemples. L'éternité est aussi la période où Jésus va venir. Mais il les a fait venir de manière un peu symbolique. C'était pas la vraie chose qui est venue, mais une chose qui nous rappelait ou qui nous pointait vers ce qui allait venir. Ok, quelques exemples. Vous voyez que les deux autres périodes après, c'est la Nouvelle Alliance, c'est lorsque Jésus vient et il inaugure le vrai royaume de Dieu. Ok, là on va plus avoir un royaume symbolique comme au temps de l'Alliance Mosaïque, on va avoir la vraie chose, mais pas complètement, parce qu'il faut attendre que Jésus revienne pour que tout soit en place. Ok, donc le royaume vient en deux temps. C'est pourquoi j'ai mis un petit cadre ici. Le royaume va venir en deux temps. Mais ces deux temps, on va importer des symboles de ça dans le temps mosaïque. Je vous donne quelques exemples. Les sacrifices. Le vrai sacrifice ne vient qu'avec Jésus et la croix. Mais on va importer dans la période mosaïque les sacrifices d'animaux pour qu'on puisse voir ce qui va venir lorsque le royaume va vraiment venir. D'accord? C'est bien? C'est une photo. C'est une préfiguration. Mais aussi, on va importer dans le temps mosaïque une autre chose. Attention. On va importer le jugement final qui va venir au retour de Jésus. Ça, c'est pas encore passé. Mais on va importer des échantillons du jugement dernier dans le temps mosaïque pour que les hommes sur la terre puissent savoir à quoi s'attendre. Ça, c'est très bien de la part de Dieu. Ça aurait été horrible que Dieu fasse venir un jugement terrible sur les hommes sans nous faire voir à quoi ça pouvait correspondre. Donc, heureusement, dans ce temps mosaïque, on a des choses qui sont pour nous horribles. Parce que le jugement dernier est horrible. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les échantillons de jugement qu'on a dans le temps mosaïque? On a la conquête des Canaan, où des peuples très très méchants et obstinés contre Dieu, qui sacrifient leurs propres enfants dans leur religion, on les tue. Ils sont tués. Ça c'est croire. C'est le jugement dernier qui arrive un peu avant. Et Dieu n'a-t-il pas le droit de juger quand il veut? Oh, il peut. Il peut faire venir le jugement dernier en échantillon à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui correspond au jugement dernier dans le temps de l'Alliance Mosaïque? On a certaines peines capitales. Voilà un enfant qui s'obstine contre ses parents. Il boit. Il vit dans la débauche, il n'écoute pas ses parents et c'est tout ce qui est bien faire pour ramener leur enfant à la raison et il refuse. Et qu'est-ce qui doit lui arriver dans le temps mosaïque? Il doit être lapidé. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que l'Alliance mosaïque est finie, on n'a pas ça. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans un temps où Dieu nous donne une photo d'avance, où il y a une intrusion de la fin dans le présent. Ok? Ça, c'est fini. La photo est finie, on comprend bien, et on a vu la réalité même du dernier jugement, où nous en avons vu mieux, sur la croix. Donc, on n'a plus besoin d'autres photos. Maintenant, si vous comprenez cela, vous allez comprendre les psaumes imprécatoires. On souffle. Ok, tout le monde comprend? Maintenant, je voudrais vous donner deux illustrations concrètes pour que vous compreniez pourquoi cela est important. Ou peut-être je me limite à un exemple. Dieu n'est pas en train de juger sur le coup des gens comme il pouvait le faire dans l'Alliance Mosaïque. Parce qu'il n'est pas en train de faire cette intrusion. Mais nous aussi, notre éthique est différente maintenant que là-bas. Je vous donne un exemple. Ou, disons pour nous, maintenant et ce que ce sera la fin. Je sais que je viens de vous confondre, je m'explique. Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous devons aimer nos ennemis et même donner de l'eau à notre ennemi s'il a soif, n'est-ce pas? Vous connaissez les versets? C'est bien? Mais quand le jugement dernier viendra, on ne devra plus agir comme ça. Je vous donne un exemple. Il y a un homme riche et méchant qui meurt et qui va à l'enfer. Il y a un homme croyant qui meurt aussi, qui avait été persécuté par cet homme riche, et il meurt aussi. Il s'appelle Lazare. N'est-ce pas, dans la parabole de Jésus. Et l'homme riche dit, « Oh, j'ai soif, que Lazare me donne un peu d'eau. » Et Abraham dit, « Non. » On n'est plus dans ce cas de figure. Lazare ne peut plus donner de l'eau à boire à son ennemi qui est toi. C'est le moment de jugement, le moment pour bénir mon ennemi est fini. D'accord, vous comprenez? Il y a un moment où le jugement vient et ça change certaines choses. Ok? Mais cela est importé un peu dans la période mosaïque. Il y a certaines choses qu'on demande à Dieu de faire parce qu'on est en train de demander le jugement dernier. Un peu. On pourrait nuancer ça, mais on va le laisser là pour le moment. Et par la suite, vous allez... On va essayer de ficeler tout cela. Si vous êtes vraiment perdu, ne vous en faites pas. Ok, maintenant, nous voulons demander qu'est-ce que les psaumes imprécatoires demandent dans l'Ancien Testament. Nous avons vu il y a 2 semaines que ces psaumes demandent essentiellement que Dieu fasse tomber sur les méchants un mal immédiat et terrestre, qu'ils soient affligés, qui soit tué, ainsi de suite. Ça peut bien sûr être le début de leur jugement final aussi, s'ils meurent, mais donc c'est un mal temporel, terrestre qui va leur arriver. Lorsque nous regardons dans les prières imprécatoires du Nouveau Testament, nous voyons une différence. Et il y a, si nous sommes stricts, il y en a 1, 2, 3, 4. Que nous pouvons relever, qui sont certainement des imprécations. Je vous donne juste quelques exemples. Donc, Actes chapitre 8 et les versets 20 à 23, c'est donc l'apôtre Pierre qui, en face d'un sorcier qui fait semblant de se convertir parce qu'il veut de la puissance, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc, cette phrase de Pierre, que ton argent périsse avec toi, que toi tu périsses, est une imprécation. Mais qu'est-ce que Pierre demande? Il ne demande pas un mal temporel, il ne demande pas forcément que le sorcier meure de manière précoce, il parle de son jugement final, que ton argent périsse avec toi. Donc, nous allons voir que c'est le sens des autres passages qui vont venir confirmer cela. Mais il a en vue la perdition finale de cet homme et l'apôtre n'est pas en train de faire tomber cet homme tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, où l'apôtre dit ceci, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il tombe sur la malédiction. » Mais cette malédiction parle aussi de la fin. Et en fait, nous voyons que, par exemple, Pierre parle de la fin parce qu'il dit à Simon, le sorcier, qu'il prie le Seigneur pour que cela te soit pardonné. Pierre sait que nous sommes dans le temps de délai. dans le temps de l'attente, pas dans le temps où le jugement